Et nous sommes toujours ensemble. Merci à vous de votre fidélité. Je le disais en début d'émission ce matin, on parle eh bien, de ces personnes lesquelles sont perfectionnistes et qui en souffrent. C'est cette quête de toujours vouloir s'imposer des standards d'excellence, parfois extrêmement difficiles à atteindre, voire même impossible. Alors pour en parler avec nous, notre coach en développement personnel et professionnel, Nisrine Nachek, bonjour.
Bonjour Marianne, bonjour aux auditeurs et auditrices.
Et c'est toujours un plaisir, comme tous les jeudis matins, de vous avoir avec nous sur Média.
Ah oui, moi aussi je suis très contente. Et j'attends à chaque fois notre rendez-vous hebdomadaire avec impatience.
Eh bien écoutez, c'est pareil ici et je suis sûre qu'ils sont très nombreux à attendre donc ce rendez-vous hebdomadaire. Alors d'abord, comment peut-on définir le fait d'être perfectionniste, Nisrine Nachek?
Eh bien, c'est une personne qui va constamment viser la perfection dans ce qu'elle fait, et va à chaque fois peaufiner dans l'excès son travail ou sa tâche, parce que ce n'est pas juste au travail, mais même dans sa vie privée. Mmh. Et elle est profondément convaincue que la perfection peut être atteinte.
Alors, justement, comment peut-on savoir qu'on est perfectionniste? Comment le savoir, Nisrine?
Alors, il y a plein de signes qui peuvent vous aider à identifier si vous êtes perfectionniste ou pas. Par exemple, pour citer quelques-uns, c'est que quand vous êtes focalisé sur les détails, donc au lieu de regarder le travail dans sa globalité de ce que vous avez fait, non, vous allez être focalisé sur les détails, les moindres erreurs, et vous allez être focus. Vous n'allez pas voir le positif, vous allez être focus sur les détails qui ont été mal faits. Mm-hmm. Et du coup, vous allez être insatisfaite. Et aussi, donc, vous passez beaucoup de temps jusqu'au dernier moment à améliorer les choses.
Oui.
Et au prix de votre santé, de votre sommeil, même de votre temps de pause, donc de votre repas aussi.
Oui.
Pour justement faire en sorte que vous fournissiez un travail le plus parfait possible. Mmh. Vos idéaux n'acceptent pas de compromis. Donc, c'est soit blanc, soit noir. Mmh. Il n'y a pas de gris.
Ça
n'existe pas pour les perfectionnistes.
Oui.
Cette personne-là se critique aussi sans pitié et s'autoflagelle aussi pour tout ce qui se passe mal au point d'en être quasi névrosée.
Mmh.
Et la personne culpabilise non-stop. Donc tout le temps, elle n'est jamais contente, n'est jamais satisfaite d'elle-même, de son travail. Elle est très exigeante envers elle-même et envers les autres. Elle est très dure.
Envers les autres aussi.
Ah oui.
D'accord.
Oui.
Okay.
Alors il y a différents types de perfectionnisme. Mmh. Il y a des personnes qui sont dures avec elles-mêmes et envers les autres aussi, avec les autres aussi.
Mmh. Mmh.
Et puis il y a les personnes qui sont juste dures avec elles-mêmes et pas avec les autres.
D'accord.
Ça dépend quel type. Et puis aussi, il y a aussi deux types de perfectionnisme. Il y a ceux qui les perfectionnismes positifs et le perfectionnisme négatif.
D'accord.
Le positif, c'est que quand on le vit bien, et donc on est ok avec l'idée de se dire bah voilà, de temps en temps, il se peut que mon travail ne soit pas parfait comme je le souhaiterais. Et c'est ok avec ça, mais elle va quand même essayer de rendre un travail très très soigné, plus que la normale.
Oui.
Et puis il y a ceux, les perfectionnistes négatifs, donc qui sont c'est maladif, c'est au point d'en souffrir, d'être dans un mal-être et de développer certaines pathologies maladives aussi.
Mm-hmm.
Donc il y a ça. Et puis il y a aussi les personnes qui recherchent non-stop. Tout ce qui n'a pas été, au lieu de se focaliser sur les choses positives qui se sont bien passées, elle va se focaliser sur ce qui n'a pas été pour essayer dans l'avenir de ne pas reproduire la même chose. C'est aussi une personne qui procrastine énormément, vu qu'elle veut être parfaite.
Ah, c'est ça.
La moindre chose
D'accord.
qui n'est pas comme ce qu'elle souhaiterait, elle va pas réaliser la tâche aujourd'hui. Elle va reporter au lendemain.
D'accord.
Et ainsi de suite.
D'accord.
Elle va, pour elle, elle va attendre à chaque fois le bon moment. Or, il n'y a jamais de bon moment.
D'accord.
Et aussi, c'est une personne, qui culpabilise non-stop aussi, donc elle est jamais contente et elle va chaque fois culpabiliser qu'elle n'a pas rendu le travail ou effectué la tâche comme elle le souhaiterait.
D'accord. Alors dans tous les cas que vous avez cités, la personne est dure avec elle-même, on a l'impression.
Oui, elle est très 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 dure et des fois ça a même un impact sur l'estime de soi, la confiance en soi.
D'accord.
Il faut être très vigilant avec le perfectionnisme parce que quand bien même au départ on aurait une belle estime de soi, à force d'être dur avec soi-même, à un moment donné, eh bien notre confiance en soi va être effritée et puis ça sera l'estime de soi qui risque de prendre un coup aussi.
D'accord. Alors d'où ça vient, Nisrine Nachek? Quelles peuvent en être les causes?
Eh bien, selon certaines études, ils ont démontré que le perfectionnisme peut être génétique.
D'accord.
Apparemment, certaines personnes peuvent avoir une prédisposition à devenir perfectionniste. Par exemple, un des deux parents est perfectionniste de base. Eh bien, son enfant peut l'être aussi.
D'accord.
Le perfectionnisme peut aussi se développer au cours de l'enfance, particulièrement sous l'influence de certains comportements parentaux.
Oui.
Donc des parents très exigeants, voire même eux-mêmes qui soient perfectionnistes, demandent beaucoup à leur enfant. Par exemple, ils vont demander à leur enfant, tu peux pas apporter dans ton bulletin, donc dans ton carnet de notes, en dessous de 90% ou en dessous de 80%. Ils vont exiger, par exemple, que leur enfant mange très proprement, or qu'en fait, l'enfant est encore en apprentissage, etc. Tous des comportements qui poussent l'enfant, qui imposent à l'enfant d'aller à la perfection.
D'accord.
L'enfant visera aussi alors à atteindre des standards élevés,
oui.
Donc être parfait, pour se sentir aimé, reconnu de la part de ses parents, vu qu'il a été élevé comme ça. Et puis parfois, le perfectionnisme peut être dû aussi à une croyance limitante. Par exemple, j'en connais certaines personnes autour de moi, c'est « si je fais bien ça, on va m'aimer pour ça ». Donc la personne ne se dit pas « on va m'aimer pour ce que je suis », non. On va m'aimer pour ce que je fais. Et souvent,
d'accord.
ce sont des personnes aussi qui souffrent de la blessure, de l'injustice.
D'accord.
Donc, elles se poussent à être parfaites
oui.
pour qu'on l'aime pour ce qu'elle fait et non pour ce qu'elle est,
mm-hmm.
Quitte des fois au détriment de son bien-être physique
d'accord.
et mental. Et puis, certaines personnes le deviennent aussi parce qu'elles se sentent en insécurité. Par exemple, en insécurité de l'emploi, elle va se dire, surtout si maintenant j'ai un contrat à durée déterminée ou un contrat de remplacement, alors il faut que je me donne à fond pour qu'ils acceptent de signer avec moi un CDI. Et même quand elle signe un contrat à durée indéterminée, elle continue d'être dans la perfection de peur de perdre son travail.
D'accord.
Ou par exemple de peur de perdre son conjoint ou sa conjointe, mmh. etc. Et enfin, il y a des personnes aussi, c'est de peur de recevoir des critiques. Elles ont du mal à accepter qu'on les critique, elles ont du mal à faire face au regard des autres. Et donc, elles vont à chaque fois se plier en quatre pour être le plus parfaite possible.
D'accord. Alors, parlons-en de ces thérapies, ces fameuses thérapies. Est-ce que pour une personne perfectionniste, d'abord, est-ce qu'elle doit se faire aider de un ? Et puis, comment ça se passe ? Et est-ce que ça marche vraiment ?
Alors, pour répondre à votre question, ça marche vraiment.
D'accord.
Et oui, en effet, il faut vraiment se faire aider. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est l'expérience. Moi-même,
oui.
je suis une perfectionniste.
Oui. Ça ne rend pas le quotidien très facile.
Oui.
Oui.
Oui, oui. Non, en effet, et même pour mes proches, et particulièrement
oui.
mon fils,
oui.
c'était très, très compliqué.
Mmh.
Et quand je me suis fait aider, oui, je vois les résultats.
D'accord.
Et ça réussit, honnêtement. Ça réussit. Déjà, dans un premier temps, il faut déjà être conscient qu'on est perfectionniste.
Oh,
deuxièmement,
d'accord.
ce qui peut
ça,
nous...
c'est important. Oui,
oui. oui mmh. c'est important. Parce que sinon, si on prend pas conscience que nous sommes perfectionnistes,
oui.
On passera jamais à l'action d'aller voir quelqu'un, que ce soit un psychologue ou un coach, pour se faire aider. Et puis, deuxièmement, de prendre conscience, est-ce que je suis perfectionniste positif ou négatif? Et ça, ce qui peut aider, ce sont nos émotions. De se dire, si je suis perfectionniste positif, ça veut dire que je me sens épanouie, je me donne le droit, je m'autorise à rater de temps en temps, je n'en fais pas une affaire, je n'en fais pas une catastrophe mondiale. Alors que celui qui est dans le perfectionnisme toxique, donc négatif, il est mal dans sa peau. Il fait toujours passer les contraintes avant le plaisir. Mmh. Il n'accepte pas ses points faibles. Et il a une certaine tolérance envers soi-même qui est très, très, très faible. Et
d'accord.
il n'arrive même pas à s'aimer, en fait.
Mmh.
Et donc, du coup, c'est là où la thérapie est recommandée. C'est que quand ça devient maladie toxique, que ce soit pour elle ou pour les autres qui mmh. l'entourent, ou même ses collègues, et ça peut être aussi, elle peut utiliser différentes thérapies, mais ce qui aide, honnêtement, c'est par exemple, si elle va chez une psychologue ou un coach, c'est, de se dire, avec la personne, je prends conscience de mon perfectionnisme, que ça me rend improductif, du coup, je procrastine, j'avance pas. Et donc, la personne va l'aider à redéfinir ses standards, à créer une checklist aussi. Alors, qu'est-ce que j'entends par checklist? C'est donc, avant de commencer une tâche, c'est de décomposer cette tâche. Donc, avoir, par exemple, un objectif global et le scinder en mini-objectifs. Et à chaque fois que le mini-objectif est réalisé, c'est de cocher à côté et de se dire, OK, c'est fait, et d'essayer d'être satisfaite de ce mini-objectif réalisé. Et de s'interdire de revenir dessus. Alors j'insiste sur s'interdire de revenir dessus. Mmh. Parce que si vous vous autorisez à revenir, oui, ça y est, c'est foutu. Et c'est reparti, le cercle vicieux est reparti.
D'accord.
Ensuite, aussi de se dire, ben voilà, j'aurais un meilleur sens des tâches que quand je commence et que je termine dans un temps réparti. Il est important de délimiter vos tâches dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un temps de commencement et un temps d'arrivée.
Oui, oui.
Et ça vous permet aussi, à la longue, de voir, bah, tiens, est-ce que vous arrivez vraiment à réaliser cette tâche-là dans ce temps imparti, ou est-ce qu'il faut réajuster un petit peu votre temps, et donc, du coup, avoir quelques outils de gestion du temps. Et enfin, le professionnel, donc que ce soit le coach ou le psychologue ou le psychothérapeute, vous aidera aussi à casser le cycle de rumination. Et ça, c'est super important. Parce que ça va vous empêcher à chaque fois de ruminer dans votre coin. Donc ça va pomper votre énergie et votre temps, et vous n'allez pas avancer. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler ce cycle-là avec le professionnel.
D'accord. Alors on a parlé justement de professionnel. Parlons de cet entourage. Est-ce que l'entourage peut aider une personne perfectionniste?
Je dirais que non. C'est pas vraiment l'entourage qui pourra aider la personne, mis à part être dans la bienveillance et encourager les efforts du perfectionniste.
D'accord.
Toutefois, si par exemple la personne qui est perfectionniste n'en est pas consciente, l'entourage peut l'aider à prendre conscience. Moi, c'est ma famille, particulièrement un de mes frères, qui m'a aidé à prendre conscience que j'étais perfectionniste.
Oui.
Et en me mettant le doigt sur certaines choses, parfois en militant aussi, mais au deuxième degré, bien sûr, et en tournant ça à la rigolade. Et ce qui fait que oui, à ce moment-là, je me dis, ah oui, mince. Et donc, du coup, la personne perfectionniste peut prendre conscience de cela et passer à l'action. Parce que si elle n'est pas consciente, elle ne pourra pas passer à l'action.
D'accord.
Et pour revenir à l'entourage, l'entourage ne peut pas vraiment aider la personne, comme je disais, sauf voilà, être dans la bienveillance et encourager les efforts.
D'accord. Alors, vos conseils avant de nous quitter, Nisreen Achak, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel et professionnel à Bruxelles. Vos conseils à toutes ces personnes qui se reconnaissent forcément dans ce qu'on se dit, afin d'améliorer leur quotidien, j'ai envie de dire.
Eh bien, je dirais, la toute première chose, c'est identifier des objectifs plus réalistes. Parce qu'en fait, un perfectionniste, lui, fixe des objectifs très, très, très élevés, voire notamment surhumains, comme vous l'aviez dit au début de l'émission.
Mm-hmm.
Et puis aussi, prendre conscience que les résultats imparfaits ne signifient pas que vous êtes imparfaite ou une mauvaise personne ou mauvaise dans ce que vous faites.
C'est
pas du tout, parce que beaucoup de personnes assimilent ça. Donc, les résultats imparfaits à leur personnalité.
Oui,
voilà,
ça.
Exactement. Mm-hmm. Et de se dire qu'il n'y a pas d'échec. C'est soit je gagne, soit j'apprends. L'échec n'existe pas.
D'accord.
Et qu'il faut accepter l'imperfection. Et de se dire aussi que je me lance et je rectifie en cours de route. Car sinon, la personne n'avancera pas. C'est ce que moi, par exemple, je fais. Maintenant, je me lance et je rectifie en cours de route.
Mm-hmm.
Et au moins, on voit que la personne, avance. Et tout doucement, ça va aussi l'aider à apprendre à lâcher prise aussi, ce qui est important.
Et on en parlait il y a quelques semaines, absolument.
Oui, voilà, exactement. Mmh. Donc vraiment apprendre à lâcher prise, et puis la reconnaissance que tout le monde peut se tromper et qu'ils apprennent de leurs erreurs. Comme ça, ça permet aussi à la personne d'être moins dure avec son entourage.
Et avec elle-même surtout,
Et puis alléger progressivement le processus d'accomplissement des tâches à venir. Donc de se dire, OK, jusqu'à ce point-là, donc déterminer un point où je vais jusqu'à ce point-là pour finaliser ma tâche. Et puis après, stop. Je ne reviens plus dessus.
Okay.
Se concentrer aussi sur une chose à la fois.
Mmh.
Et chaque chose dans un temps très imparti, donc bien défini. Et fixer des délais pour chaque cas que vous commencez. Donc pour chaque chose que vous allez commencer, je me fixe des délais et je ne les dépasse pas. Peu importe ce qu'il se passe.
Parfait. Et on en restera là. Nisrin Chak, vous êtes coach en développement personnel et professionnel. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir répondu présente une nouvelle fois à notre invitation sur Média.
Merci à vous pour l'invitation et merci aux auditeurs et auditrices d'être toujours au rendez-vous avec nous.
À très bientôt, Nisrin Chak.
À très bientôt.